Monseigneur Philippe Brizard, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Radio Maria.
Bonjour.
Bonjour Monseigneur, nous vous recevons pour nous parler de bienheureux Vladimir Gika que nous connaissons déjà sur les ondes de Radio Maria, mais nous allons en découvrir plus avec vous. C'est une figure qui vous touche, Monseigneur. Tout d'abord, voulez-vous bien vous présenter à nos auditeurs ?
Alors, je suis Philippe Brizard. Et je suis Monseigneur parce que j'ai eu des fonctions importantes à l'œuvre d'Orient. J'étais directeur général de l'œuvre d'Orient et donc je me suis beaucoup intéressé aux chrétiens d'Orient. Et c'est à cause de cela d'ailleurs que le cardinal André XXIII m'a demandé de suivre les procédures concernant le futur bienheureux Vladimir Ghica, qui est d'origine roumaine, orthodoxe, devenu catholique, mais ayant gardé aussi le rite byzantin. Voilà, alors maintenant, je travaille surtout à un jubilé qu'on organise dans le diocèse de Paris, parce que c'est le 150e anniversaire de sa naissance, pardon, le 100e anniversaire de son ordination sacerdotale et le 10e anniversaire de sa béatification par le pape François. C'est l'un des premiers actes qu'a fait le pape François.
Monseigneur, si vous le voulez bien, commençons par sa naissance. Il est né orthodoxe et il est né de haute lignée, le bienheureux Vladimir Gika.
Il est né
de haute lignée.
J'ai pas compris. De haute lignée. Et il est né à Constantinople. Dans ce temps-là, 1873, c'était la capitale de l'Empire ottoman. Bon, ça s'appellera Istanbul par invention de Mustafa Kemal après la Première Guerre mondiale. Son père, le général Gika, était le représentant de la jeune principauté de Roumanie, est encore sous la souveraineté de la Sublime Porte, et donc le prince Gica représentait la Roumanie auprès de la Sublime Porte, c'est une façon de parler du gouvernement ottoman. Il est né le 16 décembre 1873, selon le calendrier julien, ce qui fait le 25 décembre pour notre calendrier grégorien, mais il n'est pas né le jour de Noël, donc ça c'est pour les latins, c'était pas pour les orthodoxes, et il a été baptisé aussitôt dans l'église orthodoxe russe, qui était la seule église qui était représentée Constantinople. Il n'a pas vécu très longtemps.
Oui. Est-ce que c'est en France qu'il a découvert le catholicisme, qu'il a conquis, hein. Il est passé de l'orthodoxie au catholicisme. Comment a-t-il fait cette rencontre ? Parce que ce sont des milieux assez étanches, hein, l'orthodoxie vis-à-vis du catholicisme.
Alors, sa mère, qui était née à Barenberg, était profondément pieuse et orthodoxe. Mais ça ne l'empêchait pas de lire l'Imitation de Jésus-Christ, par exemple, ou des livres des auteurs classiques de l'Église catholique au XVIIe siècle. Bon. Il a fait toutes ses études depuis le primaire jusqu'aux études supérieures à Toulouse. Et il a côtoyé quantité de petits catholiques qui en plus faisaient leur première communion, leur confirmation, et lui, il était privé de tout. Sa mère avait été assez prévenue contre les catholiques et leur avait donné à lui et à son frère Démètre, avait donné une gouvernante suisse, une Suissesse calviniste. Bon. Voilà. Mais il n'avait pas les yeux dans sa poche, il voyait bien ce qui se passait et ce que vivait l'Église catholique en France, connaissant d'ailleurs, avec la montée de l'anticléricalisme, certaines difficultés qui le troublaient beaucoup d'ailleurs. Mais c'est davantage quand il fut à Rome. accompagnant son frère, qui avait été nommé secrétaire à l'ambassade du royaume de Roumanie près le Quirinal, et qu'il s'est intéressé de très près à Rome, non pas comme étant une superbe capitale autrefois de la chrétienté et maintenant de l'Italie toute nouvelle, mais il s'est intéressé parce que, comme il le disait lui-même, au fond, je suis revenu à une Rome que je n'aurais jamais dû quitter, que mes ancêtres n'auraient pas dû quitter. On s'est séparés sur des querelles, c'était une de plus, c'était pas la première, mais en fait, dans des églises différentes, nous confessons substantiellement la même foi. Voilà, c'était ça, c'est ce qui l'a beaucoup frappé. Il avait même un certain sens de l'humour. Donc, il est arrivé de dire: je suis devenu catholique pour être meilleur orthodoxe, pour être davantage dans la vraie foi.
Il est devenu catholique, Monseigneur, est-ce après un long cheminement de l'intelligence pour drainer les a priori ou les préjugés qui se sont durcis au fur et à mesure de cet étrangement, de cet éloignement?
Et je crois qu'il a fait une démarche assez indépendante, personnelle, qui n'a pas beaucoup tenu compte de l'environnement. Et sa mère n'était pas pour. Son frère, avec qui il vivait, n'a jamais embrassé la foi catholique. Il est resté jusqu'à la fin de ses jours roumain orthodoxe. Non, c'est vraiment lui qui a fait un chemin qui lui a fait découvrir comme une évidence qu'il n'y a qu'une Église. Qu'une église qui se diffracte dans des églises particulières, mais il a compris tout de suite le rôle pétrinien du pape, c'est-à-dire ce symbole d'unité qui fait que la foi tient et n'est pas sujette aux humeurs, aux modes ou aux politiques. Ça, il a été très fort, il était même encore orthodoxe en 1901, qu'il avait fait une conférence sur Léon XIII et le pouvoir pétrinien. Voilà. Donc c'est une démarche vraiment personnelle qu'il a faite, qui lui a valu des ennuis d'ailleurs, parce que la Roumanie s'est rebiffée. Je sais pas comment un prince dont la famille a régné sur la Moldavie et la Valachie, les deux principautés constitutive de la Roumanie, comment un prince qui a travaillé, pardon, la famille a travaillé à l'unité de la Roumanie, qui est foncièrement orthodoxe, a-t-il fait pour devenir catholique? C'est une trahison.
Alors, il est devenu catholique et il a embrassé le sacerdoce baptismal, le sacerdoce commun. Il a été laïque pendant longtemps et missionnaire infatigable de la charité dans cet État, avant, nous allons le savoir avec vous, d'être ordonné prêtre à 50 ans.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Sa mère s'était même payé le luxe d'une visite au pape pour lui expliquer qu'il n'était pas question qu'il devienne prêtre. Voilà. Et donc, le pape, c'était à cette époque-là le futur pape, le futur saint, il était pape Pie, sous le nom de Pie X, lui a donné comme instruction d'être missionnaire dans son État et de travailler à l'unité des Églises. Ça, c'était dès le début. C'était tout à fait dans la ligne de sa propre réflexion. Substantiellement, il n'y a qu'une seule Église. Hein. Bon, même quand on réfléchit un petit peu aujourd'hui, elle est diffractée par le malheur des temps et le péché des hommes. Mais substantiellement, il n'y a qu'une Église. Voilà. Alors, il était missionnaire. Quand il était à Rome, il grimpait dans les étages, dénichait la misère des chambres de bonne, comme il arpentait les hôpitaux de la ville. Ça n'empêchait pas en même temps, ce qui était remarquable, de faire, dans ce qui allait devenir l'Angelicum, la faculté dominicaine, l'université dominicaine, de faire une licence, puis un doctorat de philosophie, et pareillement en théologie. Ce qui fait qu'il était un laïc extrêmement formé, surtout à l'époque, n'est-ce pas? Et ça lui sera compté, et puisque quand il voudra devenir prêtre en 1923, il ne fera pas de séminaire, sa formation universitaire sera reconnue et son action missionnaire lui vaudra bien une expérimentation pastorale.
Monseigneur Philippe Brizard,
Monseigneur
comment est
Philippe
venu,
Brizard,
pour
comment est
notre
venu
bienheureux
pour notre
Vladimir Vika,
bienheureux
l'appel au
l'appel
sacerdoce?
au sacerdoce? L'appel au sacerdoce, je pense que c'était dès le début qu'il avait senti cet appel. Il l'avait senti sans l'avoir vraiment, je veux dire, travaillé, hein, comme on peut ressentir un appel, et puis on l'écoute, on ne l'écoute pas, on le cultive, on ne le cultive pas. Bon, d'autant plus que sa mère avait manifesté qu'il n'en était pas question. Donc il avait dû en parler un peu à la princesse Gica. Hein. Et il a affiné sa spiritualité du prochain, puisqu'il parlera même de théologie du prochain, à l'école de Saint-Vincent de Paul. Car les circonstances de sa vie ont fait qu'il a été très proche des filles de la charité, qu'on appelle en France les sœurs de Saint-Vincent de Paul, et des lazaristes, ces deux fondations de Monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul, et il en avait d'ailleurs largement la spiritualité. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec les bouleversements qu'il y avait, que lui-même a été très bousculé. Il était à Rome, il a été à Bucarest, il s'est retrouvé à Paris. Et comme il le dit lui-même, il dit, ben, c'est le moment ou jamais. Et il a fait le pas. C'était en 1923. Et il a été ordonné le 7 octobre 1923 en la chapelle des Lazaristes, rue de Sèvres, le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire.
Comme Saint Vincent de Paul, Monseigneur Philippe Brizard, nous croyons savoir qu'il était aussi à l'aise avec les têtes couronnées, les intellectuels, tous les milieux et aussi avec les pauvres, avec les plus délaissés, les plus lointains.
Je pense que véritablement c'est un héros de la charité parce qu'il était capable d'être à la portée de tous, aussi bien des grands de ce monde, hein, que des pauvres, celui qui n'a strictement rien.
Ceux qui recevaient
Je
ces
me
pauvres qui...
souviens
Je vous en prie.
d'avoir lu là une audience qu'il avait eue avec le pape en compagnie de sa cousine, la reine Sophie de Serbie. Et il était capable donc d'être avec les grands de ce monde. C'était sa famille, c'était son rang. Mais il n'en faisait jamais un état comme s'il était au-dessus des autres. Quand il a été nommé à Paris, ben, en 23, il était chapelain à la chapelle dite des étrangers, mais il a demandé à être sur la zone, comme on disait à l'époque, sur l'emplacement des anciennes fortifications qui venaient d'être démolies, une espèce de terrain vague où il y avait un sous-prolétariat, et il a vécu là plusieurs années au contact de ces gens qui, selon la bonne tradition française et ouvriériste, étaient plutôt bouffeurs de curés.
Et ce bienheureux Vladimir
Ben ça.
Gica avait un don particulier aussi pour attirer la confiance dans le confessionnal et pour faire pleuvoir des grâces, hein, sur ces pauvres âmes.
Oui, mais il n'a pas commencé par là, hein, avec ces prolétaires de la porte d'Ivry du côté de Villejuif. Hein, il a commencé par juste des conversations, un contact, des menus services. Voilà, c'est vrai que il a de fait beaucoup confessé dans sa vie, mais même le sacrement de pénitence, il n'avait pas une conception comme ça, tombée du ciel. Et ça venait d'un long chemin de conversion et d'ouverture à la rédemption. C'était d'ailleurs si vrai que, ayant reçu une petite relique, c'était un petit bout de la couronne d'épines qui est dans le 16 de Paris, comme vous le savez. Il en avait un petit bout. Pour lui, c'était une relique de la rédemption. Et il s'en servait quand il sentait que les choses étaient mûres pour que l'interlocuteur comprenne ce que c'est que avoir été racheté par le sang du Christ, avoir été racheté par cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Et du coup, son sacrement de pénitence, et s'inscrivait dans cette longue action pastorale. Mais il n'était pas non plus à ne faire que cela, si j'ose dire.
Non, il
C'était
faisait maintes et maintes
véritablement
choses, oui. Il faisait
la
maintes et maintes
charité.
choses. Cette
Oui, mais
charité.
au nom de la charité, il était capable de faire des tas de kilomètres pour assister un ami dont on lui parlait qui était à toute extrémité. Et donc, il lui ordonnait bien les derniers sacrements. Hein? Voilà.
C'est ce que disait son ami Jacques Maritain, il
Oui.
était à manger par tous les bouts, sur toutes les routes, à toutes les heures. Vous nous parlez
Alors.
de ce sens fin et ce tact affiné qu'avait le bienheureux Vladimir Gicquin pour trouver la charité, la perle précieuse. Quelle a été la course de sa charité dans l'Église? Comment a-t-il donné libre cours à cette charité? Nous savons qu'il est mort martyr, nous allons y venir par la suite.
Oui, avant de devenir martyr, il a d'abord été son ministère en France. Son ministère sacerdotal, c'est deux époques de 15 ans chacune. En France, il a été d'abord au contact de tous ces réfugiés. Il faut se rendre compte de ce que c'était au lendemain de la Première Guerre mondiale, toutes ces populations qui venaient de Russie, de Biélorussie, du démembrement de l'Autriche-Hongrie, c'est-à-dire l'Ukraine actuelle, la Galicie, etc. Tous ces gens qui refluaient sur Paris, hein, et qui étaient complètement à l'abandon. Bon. Donc, il accueillait ces gens-là. Ça a été d'abord un ministère d'accueil, d'écoute et d'accueil. Hein. Ensuite, il caressait un projet qui était bien dans la ligne de sa spiritualité. C'est-à-dire, il a caressé le projet de créer une sorte de communauté qui serait presque à l'instar des communautés charismatiques de notre époque, c'est-à-dire qui accueille des gens dans différents états de vie, des célibataires, des consacrés, des mariés, bon, tout ça tout ensemble pour vivre la charité tous azimuts. C'était tellement large comme perspective que finalement, ça n'a pas duré parce que les gens n'ont pas tenu le coup. C'était pas possible d'être tous azimuts, tout le temps, jour et nuit. Alors, il y a eu un commencement de cette communauté qui s'appelait communauté de Saint-Jean. Saint-Jean parce que il a beaucoup réfléchi sur la spiritualité, enfin, ou l'approche joannique du mystère de la rédemption. Voilà. Et bon, j'ai perdu le fil de mon idée, vous pouvez
Vous nous
m'excuser.
parliez de cette charité tous azimuts. Nous n'avons pas parlé de cet aspect-là,
Oui,
mais le bienheureux Vladimir
et qui
Gicquin
avait
était.
commencé à
Oui.
Aubrive, dans
Oui.
l'abbaye de Aubrive, et ça n'a pas tenu. Mais enfin, c'est.
C'était un grand ascète, hein, rappelons-le pour nos auditeurs. C'était un homme mortifié.
Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez mortifié. Enfin, il ne
Il
passait pas son temps.
voilà, il embrassait la croix résolument, pas du bout des doigts, disons.
Ah
Voilà.
oui, tout
Il
à
traitait
fait.
son corps
Oui,
durement,
ça.
comme
Tout
le dit saint
à
Paul.
fait. On ne le retrouvait pas dans les mondanités pour rien. Ça, il le dit clairement. Quand il a fait son séjour, il était encore jeune homme, quand il a fait son séjour en Roumanie, après ses études, il a été très déçu par le climat de la Roumanie, une société un peu traditionnelle avec les boyards, les aristocrates, si vous voulez, d'un côté, les pauvres de l'autre, et puis une église qui ne proposait rien, qui n'avait pas de charité organisée, ce qui est d'ailleurs toujours la caractéristique. Les catholiques, comme souvent les protestants, ont des œuvres de charité qui sont très organisées. Ça n'existe pas. Chez les orthodoxes, c'est laissé à l'initiative personnelle.
Parlez-nous, Monseigneur Philippe Brizard, de cette couronne du martyr qu'a reçue le bienheureux Vladimir Gika. En quelles circonstances?
Bien, la deuxième partie de son ministère s'est déroulée en Roumanie. Il s'est trouvé coincé en Roumanie à l'été 1939, quand l'Allemagne a envahi la Pologne. Dans ce temps-là, la Pologne et la Roumanie avaient une frontière commune, cette région qu'on appelle la Galicie. Or, ses parents, sa famille avaient une propriété en Moldavie, tout près de la frontière avec la Pologne. Donc, les réfugiés, puis l'armée polonaise en déroute, tout cela a déferlé sur la Moldavie. Et là, il s'est senti obligé, bien sûr, de ne pas rester les bras croisés, mais tout de suite de venir au secours des uns et des autres. Alors, il a obtenu de l'archevêque de Paris l'autorisation de rester en Roumanie, et à partir de là, il a vécu toute la guerre en Roumanie. Alors cette guerre en Roumanie, c'est pas exactement comme chez nous. Ils ont bien sûr que la Roumanie avait été occupée aussi, mais il y a eu des hésitations gouvernementales, tantôt du côté de l'Axe, tantôt du côté des Alliés. Et ça s'est mal fini pour la Roumanie, parce que les Russes ont libéré le territoire, eh bien, ils y sont restés et ils ont imposé une république socialiste, démocratique, façon de toutes les républiques de l'Est. Et là, la persécution a commencé à être très sérieuse. Parce que, d'abord, on n'aimait pas beaucoup les catholiques, et que Staline a aussitôt obligé l'Église gréco-catholique, dont je n'ai pas encore parlé, qui était en Transylvanie, la troisième grande province, et qui a constitué la Grande Roumanie au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bon, les chrétiens, là, c'était une grosse minorité, étaient gréco-catholiques, et ils ont été de force rattachés à l'Église orthodoxe. Bon. Et puis, il ne faut pas penser que les latins, qui étaient peu nombreux, mais ils existaient aussi, et étaient à meilleure enseigne. Ils ont été aussi persécutés. Tous les évêques, en particulier, ont été jetés en prison, qu'ils soient de rite gréco-catholique ou de rite latin. Donc, Gika s'est trouvé là, dans une situation où il aurait pu quitter, puisque par sa famille, il était proche de la famille royale, et que la famille royale a quitté le 1er janvier 1948 le pays par un train qui expédiait tous ceux que le régime ne voulait plus. Lui, il a fait choix de rester et d'assister, de soutenir. Il a fait un travail d'ailleurs tout à fait remarquable. Si j'ai encore rencontré de ces gens qui avaient 20 ans en 1944, il y a de cela quelques années, maintenant ils sont bien, bien, bien âgés, et qui ont été formés par Gika, et c'est eux qui ont tenu le coup dans la foi. La plupart sont devenus des universitaires, ils ont tenu le coup et c'est eux qui ont mené le procès de béatification qui a été d'abord conduit à l'archevêché de Bucarest pour les latins. Voilà, donc, voilà. Et finalement, il était dans le collimateur. Pourquoi? Parce qu'il avait un apostolat, je dirais, très subtil, il rencontrait des tas de gens, il a été mis sous surveillance, et puis on s'est aperçu que, bien sûr, il tenait le contact avec Rome. La nonciature était en mauvaise posture, elle n'a pas disparu tout de suite de l'horizon diplomatique de la Roumanie, mais il servait d'intermédiaire entre les évêques ou les substituts d'évêques, c'est-à-dire ceux qui avaient été désignés pour tenir les diocèses en l'absence d'évêques, puisque les évêques étaient en prison. Donc ils tenaient le contact entre ces prêtres-là et le Saint-Siège, et il a été pris et condamné pour haute trahison, intelligence avec l'ennemi, comme si le Vatican était un État comme les autres. Voilà comment est arrivé son martyre, qu'il a vécu d'ailleurs dans une très grande, encore une fois, une très grande charité. Tout le monde l'aimait l'écouter, l'aimait l'entendre, il consolait, il donnait du courage aux uns et aux autres. Ça lui a bien été rendu,
Monseigneur
puisqu'il
Philippe,
aime.
oui,
Oui.
nous découvrons mieux avec vous cet apôtre du XXe siècle, hein, dont parlait son disciple Jean Doja. Il y a
Oui.
plusieurs événements qui approchent. Nous savons qu'il était de cœur à Rome, mais aussi de cœur à Paris. J'imagine que c'est à Paris que va se célébrer les festivités pour ces trois jubilés. Ces 150 ans de la naissance, nous le rappelons, les 100 ans de son ordination et les 10 ans de sa béatification par le pape François, vous nous l'avez
Oui.
dit. À quoi faut-il
Oui.
s'attendre?
À quoi faut-il s'attendre?
Oui.
Oh ben, vous savez, on est modeste, hein. Moi, je suis membre d'une petite association qui s'appelle l'Association pour le bienheureux Vladimir Guica. Nous avons été contrariés par la COVID il y a 2 ans, parce qu'on avait déjà prévu de faire toute une semaine pour faire connaître davantage Vladimir Guica, car le paradoxe de ce prêtre du diocèse de Paris, c'est que son procès de béatification a été mené à Bucarest et que la béatification s'est tenue, a été célébrée à Bucarest. On a fait après une cérémonie de retour en la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais ça n'avait pas la même allure. Donc, voilà, il faut sortir Vladimir de cet incognito dans lequel il s'est noyé, si je puis dire. Plus personne ne connaît suffisamment qui est Vladimir Guica, qui a pourtant de l'allure, comme j'ai essayé de le dire, par son sens de la charité, son amour des pauvres, par un grand sens de l'Église, et c'est quand même ce sens de l'Église qui lui a valu le martyre, hein. Et puis, il s'est révélé un prêtre séculier, diocésain, d'une grande valeur. C'est un modèle pour nous, les prêtres diocésains.
Nous
Alors,
rappelons, oui.
nos manifestations seront modestes quand même. On va commencer par Villejuif, puisque la paroisse Sainte-Thérèse de Villejuif trouve son origine dans l'action menée par Vladimir Guica quand il était dans le sur la zone de Villejuif. Hein. Et puis, bien sûr qu'il y a des attaches avec les lazaristes et les filles de la charité. Alors, les lazaristes, on a déjà célébré hors jubilé, on a fait une célébration chez les lazaristes et on a comparé d'ailleurs Guica à saint Vincent de Paul. Voilà. Et puis, il y a des églises à Paris où il passe beaucoup de monde et le curé s'intéresse beaucoup aux Roumains. C'est Saint-Louis-Lantin. Le curé parle roumain, bon, donc ça aide, hein. Et comme en la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, et là je pense qu'avec l'aide des moyens que nous donne le diocèse, des moyens de communication, on va pouvoir faire davantage connaître Vladimir Guica. J'irai de mes conférences, comme on y aura aussi des moments de vénération du reliquaire de saint, du bienheureux, qui viendra tout exprès de Bucarest, et puis on célébrera aussi la messe du martyr.
Monseigneur
Voilà.
Philippe Brizard, vous l'imaginez bien, c'était une figure connue sur l'antenne de Radio Maria, le bienheureux Vladimir Guica. Merci d'avoir encore rafraîchi notre mémoire et porté à notre intercession et à notre prière le bienheureux Vladimir Guica. C'était heureux de vous entendre parler avec tant de connaissances du bienheureux Vladimir Guica. Nous vous remercions bien chaleureusement, Monseigneur, et nous vous souhaitons.
Voilà, j'espère que j'ai mis aussi du cœur, parce que je l'aime beaucoup.
Oui,
Voilà.
une sainte montée vers Pâques, Monseigneur. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'était notre émission Interview-Témoignage. Nous étions avec Mgr Philippe Brizard qui nous parlait du bienheureux Vladimir Gika. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.